Star Wars en direct vous est présenté par SithClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com. Bienvenue à Star Wars en direct, édition Clone War, la quatrième édition qui va se concentrer sur l'épisode Downfall of a Droid. J'ai en ma compagnie cette semaine Jean-François. Bonjour Jean-François.
Bonjour, bonjour.
Et François. Bonjour François.
Bonsoir.
Donc, cette semaine, on va faire ça d'une façon un peu plus live. Donc, l'épisode Downfall of a Droid est le sixième épisode à être diffusé sur Cartoon Network et CTV ici au Canada. Le numéro de production est le deuxième, donc il a été produit pour être le deuxième épisode en fait. Il a été écrit par George Christick, dirigé par Rob Coleman. Et évidemment, dans les personnages, on a Anakin Skywalker qui est joué par Matt Lanter, Ashley Eckstein pour Ahsoka Tano, Matthew Wood qui est General Grievous et les Battle Droids, Ron Perlman qui est Ganak, le Transdotion. Pour ceux qui savent pas, Ron Perlman est l'acteur qui fait Hellboy, donc on entend sa voix dans cet épisode. James Arnold Taylor qui fait Obi-Wan, Dee Bradley Baker qui fait les Clone Troopers, Tom Kane qui fait l'amiral Urolin et le narrateur, l'amiral Urolin que on n'entend pas vraiment dans cet épisode, mais qui est dans une des scènes coupées. On va, je vais d'ailleurs la décrire, la scène coupée. Si on commence avec ce qu'ils appellent en anglais le fortune cookie, ou en français on appelle la morale de l'histoire, si on peut dire. Avoir confiance en ses amis, ils auront une raison d'en avoir confiance en vous. D'après vous, en quoi cette morale-là s'applique à cet épisode? Pensez-vous que c'est plus la relation Anakin R2? C'est-tu le downfall, la chute de Goldie, le nouveau droïde? Ou encore c'est la relation entre Grievous et ses droïdes? Il n'y a pas vraiment confiance en ses droïdes. Et puis, donc, ces droïdes n'ont pas nécessairement confiance en lui, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, mettons, Jean-François premier?
Ben, moi, je pense que c'est peut-être plus la relation entre Anakin et Goldie. Hein. Mm-hmm. Je pense que Anakin n'a aucune confiance envers ce droïde-là, puis le droïde n'a aucune confiance envers Anakin non plus.
D'accord.
Fait que je pense que c'est un peu ça, là.
Mm-hmm. François, as-tu des commentaires sur ça?
Oui, moi aussi, je crois que c'est entre Anakin et Goldie, mais je crois qu'on dirait que ça devrait s'appliquer plus à, probablement au prochain épisode, okay. Parce que probablement Goldie va faire des actions qui probablement vont plus lui faire que Anakin va lui donner confiance en tant que tel. Mais on peut voir aussi, comme tu mentionnais, entre Grievous et ses propres droïdes, parce que si tu remarques dans les vaisseaux des Battle Droids, le commandant ou le pilote du vaisseau questionne toujours les ordres de Grievous. Donc, c'est comme si les Battle Droids eux-mêmes n'ont pas confiance en Grievous parce qu'ils questionnent tout le temps ses ordres. Puis Grievous veut tout le temps leur donner une taloche, si on veut, du revers de la main.
En effet.
Donc c'est ça.
Comment droïdes se sont fait arracher la tête jusqu'à présent?
Ben en fait, c'est une des choses que j'avais notées dans cet épisode-là, puis que je voudrais peut-être qu'il s'améliore au fil des prochains épisodes, parce que on dirait que Grievous donne tout le temps un revers de la main et détruit tout le temps ses droïdes de cette façon-là. Mm-hmm. Je voudrais qu'il soit plus créatif dans la façon qu'il détruit ses propres subordonnés. Mm-hmm. Oui. C'est ça qu'il décapite ou qu'il fasse d'autres choses.
Mm-hmm. Qu'il arrache les bras de leur socket, non? Ça serait un petit cliché.
Oui, parce que dans cet épisode-là, en fait, il y a deux fois qu'il quitte son vaisseau. Donc, un pour se sauver, puis il se moque un peu
de son
droïde, parce qu'il dit, bon, ben, dans le fond, je le laisse tomber, puis l'autre, il pense qu'il y a le commandement, là, fait que Fait que c'est, donc, il laisse tomber. Puis la deuxième fois qu'il détruit carrément, il donne une claque. Donc, mais j'aimerais ça qu'il y ait plus de variété.
D'accord. On a aussi l'espèce de newsreel, les nouvelles du front, si on peut dire, qui disent qu'après une série désastreuse de défaites, l'emprise de la République dans la bordure extérieure est compromise, appelée pour protéger le monde de Botawi. Anakin Skywalker et sa flotte sont les seuls à pouvoir s'opposer à Grievous. Je dirais que enfin, on mentionne de nombreuses défaites désastreuses. C'est dommage qu'on ne les voit pas à l'écran. Comme on mentionnait dans certaines autres émissions, on aimerait ça voir des défaites de la République dans le fond. Je sais pas qu'est-ce que
en fait, c'est oui et non, parce que c'est un peu de la propagande, un peu comme, j'imagine, à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils montrent pas les défaites des alliés, ils mentionnent juste les défaites des opposants, dans le fond, là. C'est un peu comme ça que je le voyais, là.
C'est vrai, dans le fond, ouais. En effet. L'épisode commence par deux scènes qui ont été coupées. Je vais vous les décrire. Une flottille de trois destroyers dont le Resolute flotte au-delà de la bordure extérieure d'un anneau rocheux encerclant Botawi. L'amiral Uralen conseille à ses capitaines de ne pas trop se rapprocher des astéroïdes, d'être patient jusqu'à l'arrivée inévitable de leurs ennemis. Dans les hangars du Resolute, Anakin Skywalker et R2-D2 bricolent le chasseur Delta 7B jaune, modifiant ses propulseurs pour en faire le vaisseau le plus rapide de la flotte. Mais Ahsoka Tano arrive et prévient son maître de l'imminence d'une transmission importante. Donc, quand on voit plus loin que Anakin mentionne une chance que on a modifié le vaisseau, tu sais, pour donner de la vitesse, cette scène-là, on la voit pas quand ils sont en train justement de le modifier. C'est un texte qui est tiré du site officiel, donc j'imagine que peut-être sur le DVD, espérons-le, on va avoir cette scène-là.
Je trouve ça le fun que tu le mentionnes, parce que moi, je la connaissais pas, de la scène coupée. Et puis, ça me fait penser à plus tard dans l'épisode, lorsque Goldie essaie de repartir les réacteurs, puis il est pas capable. C'est peut-être à cause des modifications que, justement, R2 avait faites au réacteur. Donc, peut-être que lui, il allait selon son fonctionnement de base au vaisseau, mais ça a pas fonctionné à cause qu'il y a eu des modifications.
Ah, peut-être. Moi, je vais donner...
Au début.
Vas-y.
Je vais juste dire, quand Anakin est avec R2-D2 au début, là, quand ils sont en train de combattre les forces de Grievous, puis que tous les vaisseaux des clones sont en train de se faire détruire, Anakin dit à R2-D2, ah, une chance que t'as ajouté du power, c'est comme ajouter de la force dans le vaisseau, ça nous permet de nous pousser. Je sais pas si ça a un lien avec ça ou pas, là.
Ben oui, c'est certainement ça, justement. Ensuite, Anakin, R2 et Ahsoka rejoignent le capitaine Rex sur le pont où un hologramme d'Obi-Wan Kenobi fait état des nouvelles du front. La République continue d'être durement touchée par la perte d'un groupe de la bataille à Falleen. La flotte de Grievous fait maintenant route vers Botawi, précisant que le rapport de force est en la défaveur des Jedi. Kenobi conseille à Skywalker de se retirer, mais le jeune maître Jedi refuse de céder cet objectif stratégique aux séparatistes. Il a déjà un plan audacieux en tête. Qu'avez-vous pensé de cette scène-là? Un ou l'autre, non?
Moi, en tant que tel, j'ai aimé cette scène-là, parce que on dirait que c'est la première fois, ou en tout cas une des rares fois, que Anakin a une bonne réplique pour dire à son maître, parce que Obi-Wan dit à Anakin... qu'il devrait écouter sa padawan, puis lui il dit ouais, mais toi tu devrais m'écouter moi. Donc je trouve que c'était une bonne réplique qu'il y avait dans cette scène-là. C'est quelque chose que j'ai aimé, que Anakin ne fait pas nécessairement souvent, de donner une bonne réplique à Obi-Wan.
Ça, il dit, you should listen to your padawan as you listen to yours, my old master.
Exactement.
Anakin aussi, comment je pourrais dire. Ahsoka a appelé Anakin maître, qui est une des rares fois. C'est peut-être aussi à cause que c'est le deuxième épisode de production. Peut-être qu'au début, elle l'appelait maître beaucoup. Je sais pas. Puis peut-être que par la suite, elle a décidé de le surnommer, malgré que non, puisque le film, immédiatement en partant, elle l'appelle Sky Guy, donc c'est pas à propos.
Oui, puis aussi plus tard, je crois qu'elle l'appelle Gramps aussi, parce que j'imagine qu'il est plus vieux.
Grandpa. comme grand, hey, grand-père. Dans le fond.
C'est un peu une insulte quand c'est ton maître, quand même, là, mais.
Ouais, ouais, c'est ça.
OK, ensuite, les bâtiments séparatistes, les vaisseaux séparatistes ne tentent pas à sortir de l'hyperespace et s'engagent sur la trajectoire de la planète par des anneaux rocheux, Donc, ils passent au travers. À bord du vaisseau, l'amiral, le général Grievous, ordonne à sa flotte de pénétrer dans le champ d'astéroïdes et d'engager les destroyers républicains afin de reprendre l'avantage à ses ennemis. Seuls les astéroïdes protègent la poupe des frégates, donc l'arrière du vaisseau, car les boucliers sont concentrés sur l'avant, là où les tirs républicains sont concentrés. Alors, avant de vraiment décrire la scène, la première chose qui m'a complètement fait décrocher de l'épisode, c'est la musique que je vous fais entendre en arrière-plan à l'instant, et juste pendant quelques secondes, et on va revenir. Vous allez voir les similitudes et je vais vous dire qu'est-ce que vous entendez. Alors, la musique que vous venez d'entendre est bel et bien celle qu'il y a dans l'épisode de cette semaine, mais enfin, ce n'est pas de la musique Star Wars, c'est le thème principal du film Bram Stoker, Dracula, de 1991. Donc, c'est le thème principal de ce film. Donc, pour la première fois, je pense, Star Wars a utilisé de la musique d'un autre film. Je sais pas si c'est le début d'une tendance. Est-ce que ça vous dérange, vous, qu'il y ait de la musique d'un autre film dans Star Wars?
Ben, moi, j'avais même pas réalisé que c'était la musique de Dracula. Okay. Moi, j'ai trouvé la musique en général de cet épisode vraiment mauvaise.
Ah ouais?
La musique était mauvaise. J'ai pas aimé du tout, mais je savais pas que ça venait d'un autre film.
Ben, en fait, c'est juste le thème quand le vaisseau, c'est le thème dramatique. Toi, j'imagine que tu parles, plus de la musique techno qui est peut-être surutilisée. Ouais, ça. Donc ça c'est pas Dracula.
non, ça, mais je savais pas que l'extrait que tu disais ça venait de Dracula.
Mm-hmm. Tu le réécouteras et puis si tu je t'ai juste à aller sur YouTube et puis vous allez facilement retrouver l'extrait. Donc ben là t'as parlé de la musique. C'est un peu le retour de la musique moderne qu'il y avait dans le film Clone Wars, un peu la musique semi-techno. J'avais l'impression des fois d'être dans le film de Matrix ou encore dans la scène du bain de sang dans Blade. Donc, des fois, ça jouait bien avec l'atmosphère, des fois non. Des fois, je me demandais si ce n'était pas la musique qu'on entendait dans le vaisseau, comme si c'était si le Strand Ocean écoutait pas de la musique dans le vaisseau. Des fois, ça me donnait cette impression-là. Je ne sais pas si vous avez un peu eu la même impression.
Oui, moi aussi, j'ai eu un peu ce sentiment-là. C'est comme si c'était la radio de son vaisseau qui jouait.
Mm-hmm.
Moi aussi, je passais ça au niveau du salvage ship. Là. On dirait que en arrière-plan, on entendait comme une musique à la radio lorsque Ahsoka et Anakin sont partis. On dirait qu'on entendait une radio vraiment en arrière. Là.
Mm-hmm. Ensuite, j'essaie de suivre. OK, bon, ben on parlait qu'il y avait la stratégie donc d'Anakin. Les hangars républicains laissent sortir l'escadron Gold constitué d'intercepteurs V-19 Torrent. Gold Leader, qui est Anakin Skywalker, mène le chasseur à bord de son Delta 7B et confie à R2 que Grievous est en train de tomber dans son piège. Les échanges de tirs se font plus violents, tandis que la chasse républicaine s'apprête à intercepter des vaisseaux séparatistes. Un destroyer républicain se trouve neutralisé, tandis que l'escadron Gold subit à son tour ses premières pertes. Utilisant toute la puissance de ses moteurs, Anakin Skywalker accélère pour coller au plus près de ses ennemis, voyant ses proies en position. Skywalker ordonne à Ahsoka de transmettre l'ordre de déploiement à Rex. Alors, sur les astéroïdes que viennent de dépasser les frégates, des séparatistes, des dizaines de OTTE émergent et déversent leur feu nourri sur les poupes non protégées des vaisseaux. Pendant que les séparatistes rééquilibrent leurs boucliers, les Vénators ouvrent le feu, prenant Grievous dans un feu croisé mortel. Skywalker zigzague entre les tirs et parvient à réduire en poussière l'un des ponts de commandement d'une frégate. Grievous n'a pas le choix, il leur donne une retraite totale. Mon premier impression, c'est qu'avez-vous pensé de la surprise d'Anakin avec les ATTE? Est-ce que vous avez trouvé ça original, etc.?
Moi, personnellement, j'ai trouvé ça quand même bien pensé. C'est sûr que, est-ce que les ces véhicules-là ont assez de puissance, même si les frégates ont pas de bouclier en arrière? Oui, ça peut faire des dommages, mais...
La coque, la coque devrait être relativement solide après un vaisseau de cette taille.
Surtout qu'on a vu des astéroïdes frapper la coque avant même qu'ils disent de mettre les boucliers en avant. Mm-hmm. Donc, la coque de la frégate est quand même assez solide.
Mm-hmm. Je me demandais justement si c'était avant ou il y avait quand même les boucliers, mais qui étaient tout simplement très près de la coque. Je me le demandais, ça.
J'ai trouvé ça un peu étrange.
Vas-y.
Je veux juste dire, j'ai trouvé un peu étrange, c'est qu'on voit les astéroïdes qui rebondissent sur le vaisseau, alors que dans Empire Strikes Back, les Star Destroyers sont démolis par les astéroïdes.
C'est vrai.
c'est une très bonne remarque, ça.
Parce que c'est vrai, puis ils ont quand même des boucliers là, dans l'Empire contre-attaque.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai. Et puis, on peut vraiment maintenant confirmer que l'armure des Clone Troopers est à l'épreuve du vide de l'espace Star Wars.
Ouais.
Définitivement. C'est encore, je pense que c'est le 3e ou 4e épisode qu'on les voit dans l'espace, là.
Une autre chose que j'ai remarqué quand même au niveau de cette stratégie-là, là, parce qu'une fois qu'ils ont commencé à tirer sur les frégates des séparatistes, Ahsoka dit à son tour de tirer à feu direct en avant les all cannons, mm-hmm. All four cannons, et puis là tout d'un coup, même avec les boucliers en avant au maximum, ça perce comme dans du beurre.
J'ai l'impression qu'ils ont tout simplement balancé. Ils ont tout envoyé en arrière pour se protéger parce que c'est la seule place qui avait des tirs, ou bien ils ont vraiment mis la majorité en arrière. Les boucliers, ce qui a fait...
Ou le bouclier s'est fait endommager.
Ah, aussi. Ben oui, parce qu'il a quand même reçu pas mal de tirs par en arrière, donc... En effet.
C'est sûr que c'est pas mentionné, c'est juste le problème.
Ouais, c'est ça.
Les choses se passent trop vite. On dirait qu'il aurait fallu un ordre à l'intérieur de Grievous pour dire « All shields in the back » ou quelque chose de même, mm-hmm. juste pour...
Pour confirmer.
Pour faire comprendre, ouais.
Ensuite... il est trop tard et Grievous, le sachant pertinemment, prend les commandes de son chasseur, ce Cormac Skywalker. Se préparant à sauter en hyperespace, le général droïde doit esquiver Skywalker, mais un débris percute le Delta 7B et cause une déflagration à bord du vaisseau. Une explosion soudaine envoie le vaisseau d'Anakin en vrille dans les astéroïdes. Évidemment, on a entendu à ce moment-là « I have a bad feeling about this », comme dans tous les épisodes jusqu'à présent.
Ouais.
Ensuite... Anakin Skywalker se réveille peu après dans une des baies médicales de la flotte. Rex et Ahsoka l'informent que le plan du Jedi les avait tous sauvés. Grievous a pu s'enfuir, mais sa flotte est complètement détruite. Mais la joie est de courte durée quand Skywalker apprend que R2 est porté disparu. Moi, cette scène-là, j'ai bien aimé l'effet de surexposition de la lumière. Je ne sais pas s'il voulait tout simplement nous montrer qu'on était comme... dans une salle médicale, ou si c'était tout simplement se mettre un peu dans la peau d'Anakin qui reprenait conscience, je sais pas trop, j'ai bien aimé l'effet de surexposition.
Et moi, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'il y avait Anakin sur son bras. On dirait que c'est la même restraining ball qu'il y avait sur R2. On dirait qu'il voulait pas qu'il utilise sa même mécanique.
Ouais,
inconsciemment, je sais pas c'est quoi.
C'est vrai, j'avais pas pensé. Vraiment. Puis ils l'ont pas montré encore à date, je crois, dans la série Clone Wars, son bras métallique.
Non, je crois pas. Et aussi, juste avant cette scène-là, lorsque Grievous quitte son vaisseau, c'est vraiment une des scènes les plus drôles de l'épisode, là, lorsque son pilote lui dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Puis lui, tu le vois pas, mais tu le sens qu'il roule ses yeux, là, puis qu'il s'en va, là, puis il est juste tanné là, de l'incompétence de ces droïdes, là.
C'est moi qui
est vraiment très drôle.
Puis le droïde qui dit maintenant c'est moi qui contrôle, faut croire.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment drôle cette partie-là.
Plus tard, Kenobi félicite son ancien Padawan, mais Skywalker est ailleurs en train de penser à son droïde. Obi-Wan ne voit pas en quoi la perte de ce droïde est importante et lui conseille d'en prendre un nouveau sans tarder. Skywalker insiste et révèle à contre-cœur à Kenobi que R2 dispose de l'intégralité de sa mémoire. Toutes ses aventures, toutes les stratégies républicaines et tous les secrets militaires des Jedi sont encore présents dans la mémoire de l'astromécano. Kenobi, décontenancé, ordonne à Skywalker de le retrouver sur le champ. Ça, c'est une autre belle scène, on peut dire. On voit vraiment l'attachement d'Anakin avec R2, le focus sur la main d'Anakin, puis t'entends le cuir se serrer, ils ont mis un gros accent là-dessus. Puis j'ai aussi aimé le point que Ahsoka apporte, donc qui dit... elle protège un peu Anakin en disant que ah ben ça nous a aidé dans le passé, tu sais, d'avoir de l'information de R2. Je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène.
Ben moi je pense que c'est très important au niveau de cet épisode-là en particulier, parce que plus tard je vais faire d'autres comparaisons là, parce qu'il parle en effaçant la mémoire de R2. Si tu regardes le comportement de R3 un petit peu plus tard là, on voit que ces types de droïdes-là, les mécanos là, ils sont programmés avec une personnalité, un peu contrairement au Battle Droid, contrairement à d'autres droïdes qui sont vraiment plus pour la tâche, comme les Assassin Droid plus loin. On dirait qu'ils sont vraiment programmés. Ceux qui ont des personnalités, ils ont la capacité d'apprendre, puis ceux qui sont pas programmés avec une personnalité, ils vont vraiment exécuter la tâche, un peu comme les super pas les super battle droids, mais les droidicas, qui les autres qui roulent puis qui tirent comme des malades. Ils ont pas vraiment de stratégie, rien là, ils font juste rouler puis tirer. Donc c'est un peu ça, puis plus tard je vais amener d'autres points qui un peu sur cette comparaison là. Que oui, les mécanos sont là pour apprendre. Donc c'est un peu ce point là que je voulais discuter.
Toi, Jean-François?
Non, je suis d'accord avec ce que François vient de dire. Je trouve que c'est ça. Je pense que ça vient avec l'apprentissage, avec les un peu comme les années d'expérience que les droïdes ont eues. C'est comme s'ils effacent la mémoire R2-D2, c'est comme il faudrait qu'ils recommencent à zéro au complet. Fait qu'ils voudraient tout, ça serait tout un autre apprentissage, tout ça. Je l'ai vu un peu
de autre, justement, un autre parallèle qu'on peut faire, c'est que les battles droïdes aussi, sont bien niaiseux, là, mais ils sont programmés avec des personnalités. Ce qui fait qu'ils questionnent un peu tout ce, à chaque fois qu'il y a des ordres, là, un peu comme lorsque Grievous leur donne des ordres, ils questionnent tout le temps ce qu'ils vont en faire, ou quand un de leurs chefs leur dit de faire une action, il va poser une question, ou il va dire pourquoi on fait ça. Ces droïdes-là, ils font plein de gaffes, un peu comme Goldie fait au début. Donc, on dirait que les Battle Droids, puis les drones mécanos sont un peu fabriqués ou programmés de la même façon. Donc, ils veulent apprendre, ils ont des personnalités, mais les Battle Droids, ils n'ont jamais le temps d'évoluer parce qu'ils sont tués tout le temps, tout de suite.
Ouais.
Donc, tandis que les mécanos, eux autres, on dirait qu'ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent. Donc, probablement que Goldie va apprendre, puis il va devenir meilleur, probablement le droïde d'Ahsoka plus tard dans les épisodes, là.
Peu après, le Twilight est prêt à partir. Skywalker retrouve Ahsoka à bord avec un nouveau astromécano, R3-S6, que Ahsoka a renommé Goldie. L'enthousiasme d'Ahsoka envers le petit droïde est quelque peu gênant pour Skywalker. Donc, c'est Goldie que plus tard, Anakin va surnommer Stubby, pour théoriquement maladroit en français, je dirais. Stubby Stubby, c'est dans le sens d'avoir ne pas avoir de doigté, je crois.
Moi, je croyais que c'était plutôt comme un petit gros, dans le fond. Okay. C'est ça, t'es Stubby, là, t'es le petit gros, là. Mais je sais pas exactement si c'est ça qu'il voulait dire, là.
OK. Bon, l'inspection des débris permet de retrouver l'épave du chasseur d'Anakin, mais là où il y aurait dû se trouver R2, il n'y a qu'un vide. Convaincu que le droïde a trouvé un moyen de s'enfuir, Skywalker ne repère sur les scanners qu'un autre vaisseau, un ferrailleur Transdoshan. du nom de Vulture Claw. C'est ça le nom du vaisseau. Après s'être arrimé, Anakin et Ahsoka, suivis de près par R3, se retrouvent à parcourir le couloir nauséabond du ferrailleur avant de faire face à un sas fermé. Un œil électronique interroge les nouveaux venus et Skywalker déclare qu'ils sont venus pour acheter un droïde. Le sas s'entrouve péniblement, laissant apparaître le dernier gras et flatulent d'un transdochant répondant sous le nom de Ganak. Et voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène, donc l'approche et puis à bord du vaisseau avant l'entrée dans la salle des droïdes, si on peut dire.
J'ai trouvé peut-être que la blague de flatulence était peut-être un peu drôle. non, mais je veux dire, tu sais, je comprends qu'ils font ça pour les enfants, puis ça fait rire les enfants, mais je veux dire, Star Wars, avant, c'était pour les enfants, puis il n'y avait pas de joke de flatulence, là.
Je dirais, ouais, disons qu'ils ont roulé beaucoup là-dessus dans la prélogie. Il n'y avait pas vraiment ouais, ça dans ça. La trilogie originale, mais je pense dans les en bon québécois, les jokes de pète, là. il y en a dans tous les films de la prélogie pratiquement là, avec Jar Jar là.
Ouais, je crois que c'était vraiment trop là. En fait il roule encore sur la même formule des prélogies là, donc
à moins que c'était tout simplement
avec un peu l'imbécilité des Battle Droids puis les jokes à Jar Jar, donc
ou bien c'était tout simplement pour confirmer l'odeur. Comment faire paraître une odeur audible, c'est en faisant un bruit de pète. Je sais pas. Mais déjà qu'on les voit répugnés par l'odeur, je pense que ça aurait été assez.
En fait aussi, moi je savais même pas que c'était un Trandoshan. En fait, il n'y a pas la forme des Trandoshan, en tout cas à laquelle on est habitué dans la trilogie, vraiment, qui était très très grand et très très costaud, si tu veux.
Ben moi, si
c'est ça, menaçant. Là, il avait pas l'air menaçant du tout, il avait l'air d'un idiot.
Ça, ben ouais, moi, si Anakin n'aurait pas mentionné « Ah, il y a un Trandoshan Scavenger », j'aurais pas cru que c'était un Trandoshan, parce qu'il, vraiment, comme vous dites, il a pas l'apparence de Bosque. Puis un autre chose, je savais pas que les Trandoshan parlaient le baiser. Donc, tu sais.
Ouais, c'est vrai. Là.
Mais bon, encore une fois, c'est une émission pour enfants. Certains enfants ne savent pas lire, donc mettre des sous-titres, c'est pas toujours idéal. Donc, c'est probablement une des raisons pourquoi que la plupart des personnages parlent le basic dans la série Clone Wars. Ensuite, Anakin lui dit qu'il recherche une unité R2. Nak lui confie que les droïdes de la série R sont durs à trouver en temps de guerre. Mais à la vue des crédits en possession de Anakin, le Transdoshan laisse les acheteurs parcourir la soute tout en prévenant de faire attention à certains objets uniques qui s'y trouvent. Il ne tarde pas à tomber sur un duo de droïdes IG désactivés. Skywalker ordonne à R3 de se connecter à l'ordinateur de bord afin de trouver l'inventaire. Alors qu'Anakin surprend une série de bips familiers et ordonne à R3 d'ouvrir une porte verrouillée, l'astromécano active maladroitement les deux droïdes assassins. Les droïdes cylindriques attaquent et Skywalker et Tano n'ont d'autre choix que d'activer leur sabre laser. Les agiles et implacables droïdes assassins révèlent leurs derniers atouts, mais ils ne font pas le poids face aux Jedi. Skywalker sermonne R3 pour son erreur, mais Ahsoka prend la défense du petit droïde. L'astromécano finit par ouvrir le sas, révélant un Ganak en train d'écouter aux portes. Qu'avez-vous trouvé de cette scène de combat, aussi la préparation et le combat? Vas-y, François.
Ben moi, j'ai trouvé, c'est une très bonne scène. C'est en fait à celle-là que je voulais venir au début, tantôt, pour comparer les droïdes qui ont vraiment une tâche à accomplir, puis les autres qui ont une personnalité. Puis là, on peut vraiment voir les différences dans la programmation, si on veut, des droïdes. Comme, par exemple, on voit que les droïdes assassins, un peu comme les IG-88, là, eux autres, ils commencent, pareil comme les Battle Droids, lorsqu'ils sont au combat, ils commencent en ligne, puis ils tirent dans le tas. Mm-hmm. Lorsqu'ils voient que ça fonctionne pas, ils se séparent, ils montent dans les airs pour prendre une meilleure position. en fait, il change de cible, il utilise des objets aussi. Il y a, je pense qu'il y en a un qui utilisait une caisse qui a poussé vers Ahsoka.
Oui.
Donc, ils sont vraiment des Terminators. Mm-hmm. Ils s'en foutent de la personnalité. Eux autres, ils ont une tâche à accomplir, puis c'est les tuer, point final. Mm-hmm. Donc, c'est un peu un avantage au niveau du combat. Puis ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'armée des séparatistes n'a pas utilisé ce type de programmation-là au lieu d'avoir des droïdes à personnalité. Donc,
ou ce type de droïdes-là, tout court.
Ouais, c'est
peut-être
ça.
Peut-être qu'il était pas vraiment plus cheap à faire, donc.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça doit être les droïdes à 10 sous, là. Dans le fond. Et évidemment, c'est là qu'on voit que les droïdes IG sont pas mal plus agiles et plus souples que j'aurais cru. Si je me fie au film où j'avais l'impression qu'ils marchaient vraiment de façon très rigide, mais. J'ai été surpris. J'aime beaucoup la façon qu'ils se déplacent.
Ça fait un peu contraste aux figurines, les premières figurines, là, lorsqu'on avait, quand on était jeune, il y a vraiment juste quatre axes
de rotation. Quatre articulations, ouais.
Là, c'est vraiment développé.
Aussi, on voit que Ahsoka est relativement habile, aussi au sabre laser. J'ai bien aimé quand elle voit qu'Anakin est sur le point de se faire tirer, et puis elle fait comme un saut périlleux et elle tranche dans le sens de la longueur, le droïde. J'ai vraiment aimé ce boulot. Et la musique, malgré que il y avait beaucoup de techno dans l'épisode au complet, la musique techno dans cet épisode-là me faisait beaucoup penser à Blade, le film Blade, avec Wesley Snipes. Pour une raison quelconque, je trouvais que ça allait très bien, puis j'ai bien aimé la petite partie, ça mettait un peu d'action, là. Ensuite, bon, face au transito, vas-y.
Une autre chose que j'avais remarqué, excuse-moi. Est-ce que les la semaine pas la semaine dernière, mais il y a deux semaines dans l'épisode précédent, lorsque il y avait les espèces de battle droid commando,
ouais.
Ou des élites, est-ce que c'est un mélange entre justement les assassin droid et les battle droid normal, parce que ils parlaient pas beaucoup, je crois, les droïdes commando, puis il y avait l'air plus intelligent, puis il y avait les yeux rouges aussi, donc je me demande si c'était pas un mix des deux, là, ou un juste milieu. Là.
Ça doit être juste un bon software. un upgrade. Service Pack 3. Ensuite, face au Transdotion, Anakin demande son droïde, mais il n'obtient qu'un silence gêné. Face à l'affirmation qu'il n'y a aucun R2-D2 à bord, Skywalker ne peut que se résigner à partir. Après leur départ, le Transdotion contacte le général Grievous, à qui il confie que R2 est en sa possession et qu'il est prêt à être livré au point de rendez-vous convenu. C'est dommage que je ne sais pas si R2 savait qu'Anakin et Ahsoka étaient à bord quand on a entendu son sifflement. Sinon, j'aurais pensé qu'il aurait continué à siffler, mais j'ai l'impression qu'il ne savait pas qu'il était là.
Ben, en background, je sais pas si c'est une scène coupée ou moi, c'est peut-être le moment où ce qu'il a mis le restraining bolt dessus. Donc, il a sifflé une fois, puis après ça, il a mis le restraining bolt. Donc, il a pas pu siffler par après. Mais je sais pas si c'est vraiment ça. Vraiment, c'est de la spéculation totale. Là.
C'est une bonne remarque, en fait. Je pense que c'est une bonne façon de le voir, même si c'est pas ça. Je pense que c'est une bonne façon de le voir. Ensuite, on se retrouve à l'acte 3. Donc, faisant son rapport à Kenobi, l'ancien maître de Skywalker en vient à conclure qu'il faut considérer le droïde comme détruit. Il y a des sujets plus pressants. Les services secrets républicains, dont la confirmation de la présence d'une station d'écoute séparatiste, Kenobi ordonne à Skywalker de partager ses forces afin de trouver et détruire cette base. Anakin Skywalker confie à sa flotte cette tâche, tandis que lui se concentrera d'inspecter les bordures de la zone à inspecter. Ahsoka insiste pour que son maître prenne avec lui R3-S6, mais ce dernier reste sceptique quant aux capacités du robot. Peu après, dans le vide sidéral, Anakin s'arrime à son anneau hyperspatial avec comme équipier Goldie. C'est là qu'on pourrait dire que la morale de l'histoire s'applique, dans le sens Anakin, je suis pas certain, mais je vais y faire confiance quand même.
Oui.
En fait, ouais, c'est
une chance, mais
il en doutait quand même pas mal. Par son regard, là, tu voyais que, ouais, il n'y avait pas vraiment le choix, là. Mm-hmm. C'est ça le problème. Une autre chose qui était très anti-Star Wars dans ça, puis c'est Obi-Wan qui l'a dit, puis je l'ai noté, c'est « We have to assume that R2-D2 was destroyed in the battle. Mm-hmm. » Mais ça, c'est vraiment anti-Star Wars dans le sens que Yoda, c'est pas dans son enseignement du tout de dire ça qu'il faut assumer « You assume too much. Mm-hmm. » Il faut jamais assumer en tant que Jedi. Il faut confirmer ou il faut faire.
En effet.
Là, c'est Obi-Wan qui dit « You have to assume. » Ça, j'ai comme décroché un peu.
Il est peut-être mort ou pas. Donc, c'est sûr que ça s'applique pas aux êtres humains, donc peut-être c'est différent un peu, là. Mais en fait, c'est un bon point. Ensuite, pendant ce temps, à bord du Vulture Claw, Gannak dort à point fermé. En tout cas, s'il dort à point fermé, la musique était forte. RD2-2 profite de l'occasion pour se séparer du boulon en travers d'un restraining bolt. Le boulon en travers, belle traduction, qu'on lui avait fixé avant de se débarrasser astucieusement d'un droïde IG par un sas. Nak intercepte l'astromécano peu après. On peut voir que les restraining bolts empêchent pas le déplacement latéral.
Non, c'est ça. Ben même, je pense, dans le Nouvel Espoir.
L'épisode
3, je pense que R2-D2 pouvait se déplacer quand même. Il
pouvait bouger. Latéral.
C'est vrai. Ouais. Quand on y pense, quand il est en ligne pour se faire vendre à Owen Lars, tu le vois quand R5, son motivateur vient d'exploser, puis C3PO lui dit « Ah, ben il y a cette unité R2, puis tu vois R2 sauter de côté puis se déplacer. Il a son restraining bolt, mais il est capable de bouger quand même. » Un petit peu, donc c'est peut-être juste quelque chose qui l'empêche de rouler, si on peut dire.
Ouais, j'ai trouvé ça drôle, la façon qu'il a enlevé la façon qu'il s'en est débarrassé de son restraining bolt, juste en l'accotant sur le côté, deux, trois coups, puis...
Ouais, en effet.
On dirait que c'est juste magnétique, ça tient pas à grand-chose. L'autre chose aussi, c'est là qu'on voit l'expérience acquise par R2, parce que il réussit à déjouer un droïde assassin, donc si ça aurait été Goldie, je pense pas qu'il y aurait eu de stratégie pour essayer de se sauver ou même de le faire tomber dans une voyons c'était un pod de
ouais c'était un sas
un escape pod ou c'est ça,
c'est comme le sas d'entrée, ou est-ce que le voyons, le Twilight était connecté.
Ouais, en fait, ouais, c'est ça.
Ensuite, Skywalker émerge hors de l'hyperespace dans une zone où la présence séparatiste est suspectée. Ordonnant à R3 d'activer le détecteur longue portée, l'astromécano met en marche le signal de détresse longue portée. Ahsoka intercepte le signal, tout comme Grievous qui plonge immédiatement sa flotte dans l'hyperespace. Ici, je sais pas si vous l'avez noté, qu'est-ce que Grievous a dit? Il dit, il vient de tomber dans mon piège. Donc, Grievous, c'est à partir de ce moment-là que, contrairement peut-être à qu'est-ce que tu penses, François, Goldie, pour moi, a été planté par les séparatistes. Parce que Grievous, il dit, justement, maintenant, Anakin, t'es tombé dans mon piège. Pas Anakin, mais il dit, il est tombé dans mon piège. Donc, à ce moment-là, pour moi, Goldie, toutes ces petites erreurs, c'est pas nécessairement lui qui y veut, mais il y a quelque chose en arrière. D'après moi, on va le voir dans les prochains épisodes.
Ouais, en fait, c'est une avenue que j'avais pas pensé du tout. Moi, c'était vraiment à l'opposé du tout. Moi, je pensais juste au niveau de l'apprentissage que c'était un niveau de programmation là, seulement.
Toi, Jean-François?
Non, moi aussi, c'est comme François l'a dit, j'étais sûr que c'était au niveau de la programmation aussi. Mais comme tu dis, ça laisse peut-être entrevoir.
Parce qu'à chaque fois que c'est important, il est pas capable de le faire, mais comme par hasard, quand le combat est fini, il réussit à ouvrir le sas dans le Vulture Claw. Quand il réussit après à faire partir, quand Ahsoka lui dit « C'est beau, tu peux... » Elle parle à R3 pour que les moteurs partent, pour qu'ils puissent aller dans l'arrière du Twilight. Là, ça fonctionne quand Ahsoka y mentionne. Je sais pas s'il y a quelque chose...
Il aurait quand même pu, comme par exemple, au début... Ah non, c'est vrai, c'est avec R2. Je croyais au début, là, quand il est... parce qu'à la fin, je pense que le laser fonctionnait pas quand il était contre Grievous. Mm-hmm. puis ils ont réactivé d'une certaine façon, mais au début, c'est vraiment R2 là qui...
Justement, encore, en fait... le détecteur longue portée, pour moi, c'est quelque chose que a été programmé, a été implanté dans Goldie, qui fait que au lieu de d'ouvrir les scanners, c'est la bouée longue portée, le détecteur longue portée qui a été
c'est vrai que c'est
le signal de détresse qui a été...
J'aime quand même pas mal ta théorie quand même que c'est un ambush là. J'aime quand même pas mal cette théorie là.
Ben pour moi à partir de ce moment-là, c'était clair. Avant, j'ai dit OK, il est vraiment niaiseux comme droïde, ou comme tu dis, il était en apprentissage, ou il était pas habitué du tout, c'est un rookie, comme on dit, une recrue justement. Bon, on va continuer.
Une chose que j'ai remarqué, puis ça c'est peut-être pour seulement les personnes qui le regardent en haute définition, parce que c'est peut-être juste perceptible à ce niveau-là sur un grand écran. Ça paraît le champ d'étoiles en arrière. Lorsque Anakin il sort de l'hyperespace avec son vaisseau avec l'anneau, le pattern d'étoiles est répété, je pense, trois fois. Un à côté de l'autre, puis j'ai trouvé ça un peu cheap des animateurs. Il aurait pu avoir un système pour randomiser un peu les étoiles, mais ils ont copié de gauche à droite trois fois le même pattern d'étoiles. Puis ça, je l'ai remarqué tout de suite.
Il va falloir que je regarde.
J'ai trouvé ça bizarre qu'il ait fait ça aussi cheap pour une émission avec quand même une haute qualité au niveau graphisme. Là.
Bon, juste interrompre lentement. Merci Jean-François. Jean-François, faut qu'il s'en aille, donc... parce qu'il y a des invités chez lui. Donc, moi et François, on va terminer. Merci, Jean-François.
Bonsoir.
Tu es déjà parti?
Bonsoir. Non, je suis encore là.
C'est bon. Mais merci pour tes commentaires, puis on va se reprendre au dimanche, dans le fond.
Oui, c'est ça, effectivement. À dimanche.
À dimanche.
Salut, bye.
Bon, on continue. Skywalker somme le droïde de préparer le saut hyperspatial, mais ce dernier... désolarise l'anneau hyperspatial qui ne tarde pas à être vaporisé par le tir d'une des frégates séparatistes venant émerger devant lui. Furieux, Skywalker est également incapable de fuir. Une nuit de droïdes vautours se lance à la poursuite de Skywalker et tire de redoutables missiles. Skywalker bloque ses moteurs, effectue un demi-tour et canarde les projectiles, se débarrassant aisément des missiles. R3 continue à fonctionner de travers. Il rechigne à redémarrer les moteurs et affirme que les canons sont non fonctionnels. C'est alors qu'un tir de barrage fauche les chasseurs s'apprêtant à fondre sur Skywalker. Le Twilight, piloté par Ahsoka Tano et Rex, est arrivé à temps. Le Jedi ne peut atterrir dans le hangar du Twilight. Le Jedi ne peut atterrir dans le hangar du Twilight comme le demande Tano, car R3 n'en fait qu'à sa tête. Pourtant, il répond à Ahsoka et remet en marche les propulseurs du Delta 7B. Une fois à bord du Twilight, Ahsoka entre les coordonnées du saut en hyperespace avant d'effectuer un saut salvateur. Donc, ils réussissent à se sauver. Évidemment, elle mentionne Edith Rex, qui me fait penser un peu à Punch It Chewie. Vraiment, on voit un peu la même scène. Là. De gauche à droite, Ahsoka à gauche, avec Rex à droite. Punch It Rex, dans le fond, un peu la même scène. Donc, qu'est-ce que tu as pensé justement de... Ben, on revient un peu sur le point que R3 a encore de la difficulté. Est-ce que c'est voulu ou non? On va le voir dans le prochain épisode qui s'appelle Duel of the Droids. Est-ce que R2 va affronter Goldie? N'est-ce pas?
Je sais pas, est-ce que tu m'entends?
Oui.
Ok, c'est parce que je pensais que j'étais déconnecté pour un instant.
Non.
Donc oui, j'ai bien aimé cette scène-là. Évidemment, les deux vaisseaux qui se pressent Star Wars, tu te demandes toujours pourquoi les pilotes ils se rapprochent ensemble lorsqu'il y a un petit vaisseau qui passe entre les deux. Là. Mm-hmm. C'est toujours questionnable là, comme stratégie. Là.
En effet. D'ailleurs, j'avais lu à quelque part que, étant donné que c'est le deuxième, je pense que c'est dans les notes de production, le deuxième... cet épisode-là était le deuxième dans le numéro de production qui a été créé en deuxième. Et dans un des épisodes du Malevolence, quand Anakin il dit « Je préfère que tu sois dans la tourelle plutôt que de piloter », c'est justement probablement à cause du fait qu'elle a passé un peu trop serré entre les deux vaisseaux. C'est ce qu'il mentionne. Donc, peut-être...
Ça se peut, ça se peut.
Aussi, ben toi, t'as pas eu l'occasion de voir les previews. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que on voit ça se passe en R2-D2, on va le voir en pièces détachées. Donc, ils vont l'amener à Grievous. On va le voir en pièces détachées avec des hologrammes. Donc, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur qui vont être déchiffrées ou je sais pas. Il y a des Magna Guard. Donc, Anakin, et on voit Anakin se battre contre des Magna Guard. Et puis, on voit une scène où est-ce que Ahsoka est comme le vaisseau principal est dans l'atmosphère d'une planète. Et puis, il ouvre comme un sas. Et puis, il se jette dans le vide, un peu comme Anakin se jette dans le vide sur Coruscant dans Attack of the Clone. Et puis, tout le monde se jette dans le vide sur une... désert, on dirait qu'il saute sur Bespin, mais sur la Cité des Nuages. Je doute que c'est ça. Mais bon, est-ce que tu as trouvé que la fin ressemblait un peu à l'Empire contre-attaque? Qu'est-ce qu'ils disent un peu? Ils disent, ah, oh, il est à quelque part, on va le retrouver.
Ouais, ça fait très Empire contre-attaque comme fin, là. Juste dans l'atmosphère puis dans les paroles, même si la scène n'est pas exactement pareille. Sont devant une fenêtre. C'est sûr que C-3PO puis R2 sont pas main dans la main, là, puis
C'est sûr, en
pour
effet.
espérer trouver Anne, mais en fait, R2 c'est comme devenu son ami. Donc, est-ce qu'on peut comparer Luke et Anne comme amis dans cette scène-là? Il veut vraiment le retrouver, là, parce que c'est son compas, si tu veux. C'est avec lui qu'il partage ses aventures, dans le fond, là.
Il y a une autre chose qui est mentionnée dans l'émission qui dit We're not going to last a Minock minute. Je me demande, c'est quoi un Minock minute? C'est
Oui, c'est ouais.
une minute
C'est à
Minock.
quel moment qu'il mentionnait ça?
We're not gonna last a Minock minute. Probablement au début, quand ils se font tirer avant que Anakin ordonne le plan d'être activé. C'est juste avant qu'elle dise hold it, hold it. Je pense que c'est juste à ce moment-là. Peut-être que la durée de vie d'un Minock est très très court. Sa durée de vie, donc une Minock minute. Ça doit être dans ce
Ouais,
sens-là.
peut-être que c'est à cause de ça. Ouais, d'après moi, ça veut dire que c'est court, là.
Très très
C'est
court,
donc
c'est ça. Bon, il y a des surnoms encore qui ont été sortis, comme pour Rex, il y a Rexter. Pour les droïdes assassins, il y avait Piston Head. Il y avait aussi. Attends, j'essaie de trouver. Ben ça, c'est plus Anakin qui a appelé Ahsoka Pukums. C'est un surnom pour pas qu'elle se fasse découvrir en tant qu'Ahsoka, là, quand il parlait au Transdocian.
Il l'appelle aussi Snips ou quelque chose comme ça, je sais
Snips, ok,
pas
ouais, ça
si.
c'est son surnom naturel, si on peut dire. Donc, je vais passer les deux, comment dire, les deux previews de la semaine prochaine, et puis après, on va donner notre avis général sur l'épisode.
Next, all new Star Wars The Clone Wars.
Master, I'm receiving a strange transmission.
That's R2. Trace it, Rex.
Bring this little rat apart and find out everything he knows.
General Grievous.
Follow me, boys.
See it all unfold on Star Wars The Clone Wars. A new adventure next Friday night at 9.
You have something that belongs to me.
Only on Cartoon Network.
A traitor in their midst. Infiltrating an enemy spy station to rescue captured astromech droid R2-D2.
Hang on, R2!
The Jedi and their clones are sabotaged at every turn.
Blaster!
Now we will transfer all your secrets.
Caught in the vile trap of General Grievous, will Anakin and Ahsoka discover who has betrayed them in time?
Trigger the explosives!
There are fuel cells over here!
Get ready, Rex!
Find out next time on The Clone Wars!
Et voilà. Donc, il mentionne dans le preview a traitor in their midst. Donc
Oh,
ça,
donc c'est sûr.
je pense que c'est confirmé que Goldie est vraiment le traître. Je veux dire, si c'est pas lui, c'est peut-être quelque chose qui est implanté dans Goldie, qui pourrait avoir sa propre conscience, là. C'est peut-être juste ça, là.
Il va, non, c'est peut-être juste ça.
Parce que je suis certain que Goldie va avoir une rédemption à la fin de la trilogie.
Ouais, peut-être qu'ils vont comme faire un... Ils vont effacer sa mémoire, puis il va redevenir quelque chose comme ça. Peut-être que dans sa programmation, justement, il est programmé pour faire de la déception, puis être un traître, mais... Ils vont peut-être le garder parce qu'ils aiment bien la personnalité, là, je sais pas où ils veulent en venir avec ça.
Puis qu'est-ce que tu as pensé en général de cet épisode par rapport aux 5 premiers? Si on peut dire comment tu le cotes par rapport
à. En fait, je trouve quand même que c'est un bon épisode parce que il y a quand même une relation Padawan, maître qui est quand même assez bonne, qui est pas trop enfantine quand même. Par rapport à d'autres épisodes, à part la flatulence, mais un peu la musique techno qui des fois semble un petit peu hors place, même si ça met un peu d'atmosphère, je trouve que c'est quand même un bon épisode.
Moi aussi, j'ai très aimé cet épisode. Oui, comme tu dis, un peu la musique parfois me faisait décrocher. Donc, je dis pas que la musique de Dracula est mauvaise, mais ça m'a tellement sauté dans le visage que j'ai été déconcentré pendant quelques instants pour essayer de me rappeler, c'est dans quel film que j'ai entendu cette musique-là. Et puis la musique techno, c'est peut-être juste parce qu'on n'est pas habitué. Vraiment, c'est certain que t'as pas l'effet magique de la musique de John Williams, mais ça donne un autre effet moderne. Peut-être, comme tu dis, il y en avait un peu trop. Cette fois-ci, peut-être juste le combat qu'il y a eu avec les droïdes IG, je trouve que ça allait bien. Mais dans le sas d'entrée, et puis quand R2 se sauvait, ici qui a enlevé son restraining bolt, là, je trouvais que ça tombait moins bien. À moins que ce soit comme la musique d'ambiance du vaisseau. Mais c'était pas assez clair. C'était pas assez clair que c'était de la musique du vaisseau et non juste de la musique d'action, tout simplement. Mais j'avoue que la deuxième musique techno avait un petit son de James Bond, tu sais, comme espion. Puis c'est peut-être là, vu que R2 se sauvait, j'ai dit non, c'est pas la musique du vaisseau, c'est vraiment pour que R2 focusé sur R2, si on peut dire, dans le fond. Donc j'ai bien aimé, c'est pas un des meilleurs. Je pense que j'ai aimé mieux Rookies, mais c'est dans les bons à date. Je le préfère à Malevolence pour l'instant, peut-être pas la trilogie complète, mais comme premier épisode, je trouve que c'est un des meilleurs. Le premier de Sir Malevolence, je le trouvais pas aussi bon que celui-ci. Parce que celui-là, il y avait vraiment le package total, donc des batailles spatiales, une super stratégie, des relations à Padawan Maître, un nouveau personnage... Une nouvelle planète, entre guillemets, même si on l'a pas vraiment vu. C'est ça, une bataille, comment dire, une nouvelle sorte d'attaque, une nouvelle stratégie qui avait pas été montrée dans les films, dans le fond. L'attaque avec les ATTE, comme l'attaque verticale dans le film Clone Wars, qui était tout nouvelle. Donc, je trouvais ça très original. Ils ont trouvé une autre façon encore d'utiliser les ATTE. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses questionnables, comme tu mentionnais, avec la coque du vaisseau, mais bon, c'est quand même une série télé. Faut accepter qu'est-ce qu'on voit, c'est le nouveau canon, donc n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Moi, c'est vraiment un bon épisode, là. Tu vois que les ATTA sont vraiment bons pour tous les usages, là. Dans le fond, c'est vraiment un véhicule tout usage, puis... En fait, c'est dans cette guerre-là, là, il y a vraiment des beaux véhicules comme le Gunship et l'ATTE. C'est vraiment des véhicules, on dirait, qui sont vraiment bien pensés et sont beaux aussi. Donc, c'est vraiment des véhicules de...
Vas-y.
Donc, c'est beau.
Disons, c'est à se demander pourquoi ils ne les ont pas utilisés dans l'Empire contre-attaque.
Évidemment aussi, ouais.
Probablement que les AT-AT sont un petit peu plus blindés, donc justement, probablement que c'est ça. Donc.
Et contre des troupes au sol, là, je sais ça. Contre, en fait, peut-être de haut, justement, et peut-être qu'on va voir des défauts, justement, dans les ATTE plus tard, qui vont décider de les mettre plus haut parce que peut-être qu'ils vont être victimes de mines ou des choses comme ça qui, je sais pas, ils vont peut-être trouver une faiblesse à ces véhicules-là, puis on va voir pourquoi ils ont décidé de les mettre sur longue patte ou quelque chose de similaire, là.
C'est vrai. Très bonne déduction. Donc, j'ai bien hâte de voir la conclusion, ben, pas la conclusion, mais déjà le deuxième épisode. Je pense une trilogie aussi, donc, on va voir un déroulement principal dans le prochain épisode avec un traître parmi eux. Donc, on peut imaginer que Goldie est le traître. Si c'est pas lui, ça serait une méchante surprise parce qu'ils nous font à croire que c'est ça. Puis ça serait pas lui. Ça pourrait être autre chose. Je sais pas ça serait quoi, là. Mais ça serait spécial.
Maintenant que tu m'as parlé du preview de la semaine d'après, d'après moi, c'est ça qui est sur laquelle c'est la ligne directrice qui va nous emmener là, parce que je vois pas autrement. Là, il aurait pas donné d'autres indices là.
Donc à réécouter. moi, je veux vraiment avoir le copier-coller des étoiles. Ça, faut vraiment que je le trouve. Là.
Tu vas voir dans le centre exactement où ce que il sort de l'hyperespace, où ce que l'anneau va être en plein dans le centre. Il y a comme des étoiles en forme de cercle aussi, en plein où est-ce que le rond va arriver. Mm-hmm. Le rond de son hyperespace. Puis c'est là que tu vas voir qu'il y a un pattern qui se répète.
Bon, excellent. Donc, merci à toi. Merci à Jean-François qui a dû nous quitter plus tôt. Je vous invite ce dimanche à 13h heure du Québec, 19h heure de France, à écouter la 78e émission de Star Wars en direct, l'émission régulière où nous allons parler de l'actualité Star Wars et où nous allons faire la critique du roman Order 66 de Karen Travis ainsi que le roman Millennium Falcon de James Luceno. Et nous allons aussi parler du futur chez Del Rey, donc l'avenir, le nouveau contrat qui s'étire maintenant jusqu'en 2013. Donc, si vous avez des commentaires ou des suggestions, soit par rapport à ce qu'on vient de dire à cette édition de Star Wars en direct Clone Wars. Si vous avez des commentaires sur le format ou si des choses qu'on devrait améliorer, envoyez-nous un commentaire sur la boîte vocale Skype d'usager Star Wars en direct ou à studio@swendirect.com ou des commentaires aussi sur le prochain épisode quand il va avoir joué. Pour qu'on puisse les passer durant l'émission régulière. Nous allons d'ailleurs faire la table ronde de l'épisode Duel of the Droids lors de la prochaine émission dimanche prochain. Donc, avec tous nos autres collaborateurs, on va faire une table générale sur le dernier épisode. Maintenant, on a un groupe Facebook pour les versions françaises de l'émission Star Wars en direct. Donc, si ça vous intéresse, allez sur le site swendirect.com et regardez la dernière nouvelle où on fait l'annonce de l'émission 78 et il y a un lien pour notre groupe Facebook et nous sommes aussi maintenant disponibles si vous voulez suivre tous nos faits et gestes qui pratiquement à la minute près. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, donc un microblog, vous pouvez nous suivre. Je fais des updates relativement régulièrement, donc vous pouvez voir ce que je fais au fur et à mesure avec Star Wars en direct. Donc, merci de nous avoir écoutés et on se revoit dimanche prochain. Merci à tous. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.